des lettres.
En annonçant l'éditorial d'Adeline, j'ai pris la précaution de me référer au TLFI. Car pour un thème polémique comme celui d'aujourd'hui, le sens des mots qu'on emploie est essentiel à la rigueur de la réflexion. Or, je constate que Marie Pourriot et Angélique Voisin ont eu le même réflexe. C'est qu'elles n'ont pas choisi la facilité en se posant la question suivante. Le ludique est-il démagogique? Je leur fais confiance pour exprimer des positions nuancées à partir de leur expérience de professionnelle consciencieuse et pour refuser tout dogmatisme. Écoutons donc leur dialogue inscrit dans la rubrique « Le sujet du jour ».
Alors Angélique, tu me disais encore tout à l'heure que tu intégrais des activités numériques dans tes séquences, mais apparemment tu as encore des réticences. Donc est-ce que cela vient plutôt des outils qui ne te semblent pas adaptés ou est-ce que c'est un problème de gestion d'élèves ?
Ni l'un ni l'autre. Les outils me conviennent dans l'ensemble, les élèves sont très partants. C'est plus un sentiment de malaise que je ressens quand je pense à l'informatique avec eux. J'ai pas tout à fait l'impression de faire un vrai cours. Pourtant, mon heure est tout à fait préparée, mais je ressens cette heure davantage comme une heure de jeu. Les notions que je veux leur faire acquérir sont un petit peu masquées. J'ai pas l'impression que cette heure soit vraiment très sérieuse. Je me demande par exemple ce qu'ils retiennent d'une heure de séance en salle informatique. Quand lorsqu'ils en ressortent, ils me disent « Oh, c'était super cool, on a lancé l'info, merci madame. » Oui, c'était super pour eux, mais les notions, alors, ils les ont vraiment acquises, ils s'en souviendront. En plus de ça, la séance se déroule jamais tout à fait comme je l'attends, dans le sens où les élèves sont souvent assez lents, alors que, comme c'est un univers informatique, je pense souvent que ces adolescents maîtrisent cet univers-là. Or, je m'aperçois qu'en fin d'heure, tous les exercices ne sont pas faits. Alors je me pose la question, est-ce que je dois y retourner une heure, deux heures, combien de temps ça va prendre? Du coup, par rapport à mes collègues en salle des professeurs, je ne me sens pas tout à fait crédible, j'ai un petit peu l'impression de me débarrasser des élèves. Voilà, je me sens un petit peu mal à l'aise, c'est plus une question d'image.
Écoute, je comprends tes propos et je pense que beaucoup d'enseignants partagent cet avis. Et là, tu poses en fait le problème du ludique dans l'enseignement. Alors, je vais revenir d'une définition que j'ai prise dans le TLFI, et voilà ce qu'on y trouve. Le jeu est une activité divertissante, soumise ou non à des règles, pratiquée par les enfants de manière désintéressée et par les adultes à des fins parfois lucratives. Donc, lorsqu'on lit cette définition, on voit que le ludique est présenté comme un passe-temps. Et c'est là que se pose le problème de l'objectif lorsqu'on parle d'enseignement ludique. Mais pourtant, il me semble que les notions de règles du jeu sont à investir, puisque lorsqu'on propose un jeu, il faut bien en accepter les règles et par conséquent les comprendre. On peut évoquer par exemple les règles grammaticales. Lorsqu'on veut faire acquérir des règles aux élèves, il y a bien une phase de compréhension, puis une mise en pratique réfléchie des règles. Alors je pense que le jeu a une réelle fonction sociale. En effet, les élèves doivent gérer leur place face aux autres élèves, donc on pourrait les considérer comme des joueurs face aux autres joueurs. Et le jeu a cette fonction de dédramatiser les rôles de gagnant et de perdant. D'ailleurs, ce qu'on peut constater, c'est que les cycles maternels et primaires s'appuient beaucoup sur le jeu, ce qui n'est pas dans le cas dans le secondaire.
Oui, c'est vrai, ça je pense que c'est vraiment dommage. Mais je reviens justement sur la définition du jeu que tu rappelais, qui explique cela. Cette définition montre que cette notion est problématique et paradoxale. Dans l'esprit des enseignants, jouer, ce n'est pas travailler. On distingue toujours le jeu et l'apprentissage.
Oui, c'est vrai, mais au contraire, je pense que le jeu est légitime. J'ai lu récemment un ouvrage qui s'intitule « Jouer en classe, en collège et en lycée », dans lequel Florence Castinco distingue deux niveaux de jeu. Alors, je vais te redire ce qu'elle précise. Il y a les jeux d'émulation, qui sont centrés sur l'apprentissage des contenus et le repérage d'informations, donc par exemple les jeux de tri, d'association, des jeux d'énigmes, où on met deux équipes en concurrence. Je t'invite d'ailleurs à ce sujet à consulter le site jeuxpédagogiques.free.fr qui propose des cartes de jeux à télécharger. Et le deuxième niveau de jeu, ce sont les jeux de simulation qui sont centrés sur l'apprentissage des systèmes, des fonctionnements et des notions complexes.
Oui.
L'objectif est donc de rompre momentanément avec l'enseignement transmissif pour accéder à des situations d'apprentissage, comme le relève M. Lesquarche. Alors, finalement, moi, je ne sais pas vraiment pourquoi le jeu est souvent dévalorisé. Et ce qui était intéressant dans l'ouvrage que je te citais précédemment, c'est que justement, il invite à penser son enseignement différemment. Et c'est ça qui est intéressant.
Oui, ce qui me semble intéressant, effectivement, dans cet ouvrage, c'est que les objectifs des activités ludiques sont clairement définis. Il y a une réflexion pour cibler des objectifs précis, pour acquérir des connaissances ou des compétences. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais pour répondre à ta question, je vais faire un petit détour par l'histoire, par notre culture. Et on s'aperçoit bien, effectivement, qu'il y a la distance que tu rappelais entre la primaire et le collège, le monde de l'enfance et le monde des adolescents. Depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, l'enfance était vue de façon un petit peu péjorative, quand même. L'enfance était associée au jeu. Et il a fallu attendre la Renaissance pour pouvoir introduire dans les pratiques pédagogiques le jeu, c'est-à-dire que les éducateurs de jeunes nobles se servaient du jeu, notamment pour faire acquérir des notions en langue latine, qui semblaient un petit peu austères sinon. Et ce n'est qu'à partir de l'époque romantique où l'enfance devient positive dans notre imaginaire. C'est-à-dire... c'est un développement naturel dans lequel l'enfant peut être accompagné par le jeu. Le problème qui se pose ensuite, c'est la différence entre le jeu et les adolescents.
Alors, mais du coup, d'après toi, pourquoi est-ce que l'utilisation des outils numériques est-elle systématiquement associée au ludique et du coup relève d'une pratique de cours déconsidérée?
Justement parce qu'elle est associée à l'adolescence, et l'adolescence est une période un petit peu trouble. Si l'enfance devient de nos jours dans notre société un âge un petit peu béni où les enfants peuvent jouer pour apprendre et pour acquérir des notions. Les adolescents, quand ils jouent, eux ne font rien, se rejettent le travail et le jeu est associé un petit peu à leur phase de rébellion. Du coup, l'univers numérique devient un gadget, un passe-temps qui s'oppose au travail. Nous aussi, en cours, en tant que professeurs, souvent, quand on a recours au numérique, c'est en fin d'activité, on met le numérique à part. On ne se sert pas du numérique pour acquérir une notion, pour faire des révisions. Toi, par exemple, tu fais des séances, des leçons entièrement numériques ?
Écoute, ta question tombe bien parce que je suis justement en pleine séquence sur les légendes arthuriennes et j'étudie en ce moment avec mes élèves de 5e, Tristan et Iseut. Alors figure-toi que pour traiter ce sujet, je me sers d'une ressource extrêmement riche qui est la BNF. Alors on y trouve un parcours pédagogique très riche, des supports bien construits, des lectures audio, des tableaux. Les élèves ont même accès aux livres de Tristan. La manipulation est très simple, ils peuvent être rapidement autonomes. Par exemple, ils peuvent observer un tableau un certain temps. Ensuite, ils peuvent écouter l'histoire médiévale qui correspond à cette œuvre. Et enfin, la souris devient une petite lampe torche avec laquelle ils doivent retrouver certains éléments. Donc, c'est vraiment une séance qui est très intense, mais dans laquelle ils éprouvent du plaisir. Alors, c'est ça qui est très enrichissant.
Donc en fait, le problème des outils numériques, c'est qu'à l'instant où ils sont perçus comme des outils ludiques, les enseignants ne les trouvent plus du tout crédibles. Donc c'est ce que tu disais quand tu disais prendre du plaisir. À partir du moment où on parle de prendre du plaisir, on pense que c'est au détriment du travail. Pourtant, le plaisir de gagner la satisfaction de dépassement de soi, c'est une stimulation tout à fait positive. Et cette stimulation peut servir de levier notamment à des élèves en difficulté. Car ces difficultés ne concernent pas uniquement leur apprentissage, elle est souvent d'ordre motivationnel par rapport à un univers scolaire. Et le numérique n'exclut pas du tout les bons élèves qui peuvent justement s'y raccrocher pour se fixer des défis à relever.
Donc il y a bien certaines ressources numériques qui correspondent à tes pratiques de cours.
Oui, tout à fait. J'ai par exemple beaucoup apprécié Ortolude. Le nom est porteur de sens puisqu'il repose bien, il associe vraiment le paradoxe précédemment évoqué. Ortho, c'est ce qui est droit, juste, régulier et qui est donc... Qui renvoie ici vraiment à des règles de grammaire, de langue, mais qui est ici associé au ludique. Ce qui est positif, je trouve, dans ce site, c'est que quand les élèves s'exercent, par exemple, j'ai fait avec eux la conjugaison du passé simple, la réponse n'est pas automatiquement donnée au bout de quelques essais. Donc ils se sentent un petit peu bloqués, il y a quelques aides, on leur donne une lettre, mais souvent ils m'appellent et je les aide. Donc je peux répondre à leur interrogation dans leur apprentissage au moment où ils m'appellent. Je réponds à un besoin par rapport à leur apprentissage et je retrouve donc bien ma place de professeur.
Alors moi, je vais t'évoquer un autre site hein, qui est une autre ressource. C'est un site québécois qui s'appelle CCDMD. Alors bien sûr, il faut en voir les limites par rapport aux exercices de vocabulaire, hein, mais néanmoins, les parties syntaxe et orthographe grammaticale sont vraiment bien faites. Et à ce propos, je vais même te citer un exemple précis concernant les figures de style, où les notions sont très bien expliquées et il y a même un accroissement de la difficulté suivant le parcours choisi par l'élève. Donc tu peux t'en servir à la fois comme support pour la progression de ton cours ou simplement comme des exercices de formation.
Oui, ce qui est intéressant justement dans ce que tu dis, c'est que la différenciation pédagogique qui est amenée par l'utilisation de cet outil numérique ne repose pas uniquement sur un problème de rythme, mais vraiment d'objectif. On varie les niveaux, pas juste la rapidité de l'élève à répondre aux questions.
Voilà, tout à fait. Et puis c'est d'ailleurs ce que propose aussi le manuel numérique Le Livre Scolaire, qui est bien un livre numérique et pas numérisé. Et il propose en plus des séquences traditionnelles, une partie 100% web, avec des activités dans lesquelles le ludique tient une large place, mais convoque vraiment de réelles compétences.
Donc effectivement, quand je fais une séance en salle informatique, il faut effectivement que je fasse attention au niveau d'exigence attendue, mais c'est aussi ce niveau d'exigence qu'il faut que je mette en avant, autant pour les élèves, pour qu'ils aient vraiment aussi, eux, l'impression de travailler, d'apprendre, pour avoir un vrai retour réflexif sur les activités proposées. Les outils numériques, ce n'est pas du tout une fin en soi, et c'est pas parce qu'on se sert des outils numériques que les élèves vont réussir. Par contre, grâce aux outils numériques, on peut les motiver, et de ce fait, l'apprentissage devient plus efficace, parce qu'on retient mieux ce dans quoi on s'investit.
Voilà, donc finalement, je crois qu'on peut dire que l'enseignant de lettres a tout intérêt à inciter les élèves à prendre conscience qu'en se servant des outils numériques, l'apprentissage est bénéfique dans plusieurs domaines de compétences, donc à la fois la maîtrise de l'outil numérique et les compétences lire, écrire et dire. Donc on va conclure sur cette phrase, je crois que c'est une façon de lire nouvelle qu'il faut s'approprier.